谁保卫咱祖国？谁来保卫家？
De Chine sur le 106.6 de Radio Campus jusqu'à 17h. Nous sommes en compagnie d'Ivy Wong, née à Shanghai et aujourd'hui étudiante aux États-Unis à Georgetown University à Washington, où elle a fait quelques recherches ethnomusicologiques sur le Washington Chinese Traditional Orchestra, composé d'immigrés chinois perpétuant les traditions musicales chinoises sur le sol américain. Alors je précise qu'on a la chance de recevoir Ivy Wong juste 2 jours avant son retour en Chine, et après aux États-Unis bien sûr, et à la fin de sa courte parenthèse française. Et d'ailleurs, à propos de France, finalement, dans quel cadre vous êtes-vous retrouvée à Lille, Ivy Wong?
Bonjour. Donc maintenant, je fais un programme d'échange chez Georgetown University et maintenant, je fais un stage à l'ESMD, l'École de musique et danse Nord de France. Et c'est un programme d'échange pendant 6 semaines, en fait. Et ouais.
Et voilà.
Et voilà.
Alors, on a dit tout à l'heure, Ivy Wong, que vous étiez née à Shanghai. Alors, finalement, comment et pourquoi êtes-vous aujourd'hui étudiante à Washington?
C'est une histoire en fait de mes parents parce que quand j'étais petite, mes parents ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils font partie du commerce et ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'occuper de l'éducation. Et enfin, ils ont décidé de m'envoyer aux États-Unis pour que je reçoive une meilleure éducation là-bas. Et ça fait 5 ans que je suis aux États-Unis comme étudiante.
Et finalement, la profession de vos parents, ils sont tous les deux dans le commerce. Ça veut dire qu'ils sont jamais à la maison, ils voyagent dans toute la Chine.
Oui, en fait, ils voyageaient beaucoup et quand j'avais 12 ans, on a habité en Australie parce que ils font du commerce qui considérait l'agriculture.
Commerce international?
Oui, international.
Alors, vous avez quitté très tôt la Chine à 14 ans. Quels sont vos souvenirs de petite fille chinoise à l'école à Shanghai?
En fait, j'ai eu beaucoup de souvenirs parce que je fais beaucoup des amis en Chine et j'ai gardé beaucoup de contacts avec eux. Et maintenant, ils m'influencent un peu dans ma vie quotidienne.
Maintenant qu'ils sont loin. Mais alors, vous avez connu les deux systèmes, hein, le système éducatif chinois et puis après le système éducatif américain.
Tout à fait.
Lequel préférez-vous et pouviez-vous les décrire?
En fait, je dirais que j'ai pas vraiment un système préféré. Je trouve les deux systèmes sont le propre avantage à participer. Par exemple, en Chine, on trouve beaucoup de disciplines qui exigent beaucoup d'efforts.
Oui, on travaille beaucoup en Chine.
On travaille beaucoup, c'est ça, c'est tout à fait. Et par contre, aux États-Unis, c'est beaucoup de pensée libre et on encourage de créer son propre projet. On encourage un lien entre la communauté. Mais en revanche, on ne doit pas travailler beaucoup.
Mais vous pensez que le fait d'avoir eu une éducation chinoise au départ vous a mieux formé, était un atout pour aller aux États-Unis après? Parce que 14 ans, c'est extrêmement jeune.
En fait, j'étais au lycée, j'étais en internat.
À Shanghai?
Non, aux États-Unis, Pennsylvanie. Et j'ai vraiment pensé que les disciplines, les efforts que j'ai investis en Chine, ça m'a beaucoup influencé aux États-Unis et ça m'a j'étais prête pour ce qui suivent.
Voilà, et tous vos petits amis américains, eux, ils n'avaient pas suivi des cours en Chine, et peut-être que c'était pas si facile pour eux. Alors, j'ai l'impression que vous aimez les voyages. Pourquoi ?
J'aime bien voyager parce que d'abord, il me permet de rencontrer les connaissances nouveaux et j'ai rencontré beaucoup des amis en voyageant tout le monde entier. Et en fait, je peux voir quelque chose de plus grand que mon propre connaissance et moi-même. Et j'ai trouvé qu'il faut participer dans les autres cultures. Et comme ça, on est plus une touriste, mais plutôt une étudiante.
Tout à fait. D'ailleurs, en France, vous n'êtes pas du tout une touriste. Alors, quelle langue parlez-vous aujourd'hui à 19 ans tout juste?
Je parle... le chinois, le coréen, l'anglais et le français, je dirais.
Bon, c'est pas mal quand même. Alors, pourquoi le coréen?
Pourquoi le coréen? En fait, j'ai commencé il y a 2 ans. Pendant deux étés, j'ai suivi le cours de coréen. Et ça, c'était pour me promettre de regarder les émissions coréennes parce que ça m'intéressait beaucoup. Et maintenant, comme j'ai beaucoup des amis coréens et pour que communiquer mieux avec eux, je vais avancer dans les cours de coréen.
Alors c'est intéressant parce que finalement vous avez commencé le coréen aux États-Unis. Alors pour quelles raisons étudiez-vous la linguistique?
C'est une raison assez simple pour résoudre des questions que j'ai rencontrées en voyageant. Parce que comme je parle 4 langues et ce sont des 4 langues dans les systèmes différents, et j'ai voyagé aux États-Unis, en France, en Corée, en Chine, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlent des langues différentes et qui pensent dans des façons très très différentes. Et donc j'ai eu plein de questions à moi-même. Et en fait, à l'université, on a des cours pour explorer des questions comme ça.
Mm-hmm. Alors, depuis combien de temps étudiez-vous le français?
Ça fait 4 ans et demi.
Voilà, ben c'est parfait parce que vous parlez très bien.
Merci.
Alors, vous êtes aussi musicienne et vous pratiquez le saxophone.
C'est ça, c'est... oui. Ça fait aussi 4 ans et demi.
Voilà, avec le français, vous avez commencé le saxo.
Oui.
Et donc, avec la musique, nous arrivons au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, le fameux Washington Chinese Traditional Orchestra. Alors, pourquoi une future linguiste comme vous s'intéresse-t-elle à l'ethnomusicologie?
D'abord, c'était pour m'inscrire à cours d'ethnomusicologie parce que comme j'étais musicien et la musique était comme une langue étrangère pour moi également, je m'intéressais beaucoup à le cours d'ethnomusicologie. C'était une passion pour moi.
Et comment avez-vous appris l'existence de cet orchestre un peu spécial puisque composé exclusivement d'émigrés chinois?
Pour commencer le projet, j'ai fait un peu de recherche en ligne et j'ai trouvé cet orchestre qui est l'unique dans la région.
Est-ce qu'il est, alors il n'est pas unique aux États-Unis, mais il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup, des orchestres chinois aux États-Unis.
Il y en a, à mon avis, il y en a 5 et l'orchestre de Washington, ça fait une partie.
C'est pas grand-chose, 5 sur tous les États-Unis.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez le plus simplement possible nous dire quelles sont les différences entre la musique traditionnelle chinoise et la musique occidentale?
Alors, la différence principale, je dirais que ça se trouve dans le gamme des notes. En fait, dans la musique occidentale, on est toujours consisté par les 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, et puis... La différence en Chine, c'est on a juste 5 notes, do, ré, mi, sol, la, dans la gamme des notes. Mais bien sûr, il y a des variations comme on peut jouer fa par mi dièse, mais c'est tout le...
Bon, on va pas trop insister sur le fa et le mi dièse parce que ça devient un peu complexe, mais rappelez peut-être que cette gamme à 5 notes, c'est la fameuse gamme pentatonique.
Pentatonique. Tout à
voilà.
Fait.
Bon, c'est une première base. Quels sont les instruments traditionnels chinois que l'on trouve dans l'orchestre, justement?
En fait, je connais pas beaucoup de noms en français et.
Bah, dites-les en chinois, alors.
Oui, il y a le arou.
Oui, donc c'est une sorte de violon.
Oui, sorte de violon. Il y a yangqing, erwan, ranqing.
Oh, oh. Oui. Alors, bon, le erwan, c'est un violon avec mon magnifique accent chinois à deux cordes, hein, il me semble. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a entendu au tout début de l'émission, c'était du violon chinois. Il y a la sitar chinoise de Gucheng.
De Gucheng, tout à fait, ouais.
Voilà, ça, c'est assez connu, relativement. Et il y a je ne sais pas comment ça se prononce, la flûte chinoise, le diti.
Oui. Voilà. Flûte chinoise, ouais.
Voilà. Et donc, cet orchestre est composé, évidemment, de ces instruments et de bien d'autres que vous venez de citer, mais que je ne saurais traduire. Mais il y a aussi des instruments occidentaux, puisque vous y avez joué avec votre saxophone.
C'est ça. En fait, j'ai assisté dans un concert. On a joué une pièce occidentale avec mon saxo, mais l'orchestre, il restait derrière avec la pièce occidentale, mais avec les instruments chinois. Il y a aussi la batterie et la guitare.
Ça veut dire qu'il y a un mix entre les instruments occidentaux et les instruments traditionnels chinois.
Tout à fait.
Et les musiques se mixent aussi.
La musique, oui. Dans un concert, dans le programme, il y a des pièces occidentales et aussi des pièces traditionnelles.
Alors, dans votre travail, vous avez remarqué que peut-être la musique a quelque chose à voir avec l'identité.
Tout à fait, parce que comme c'est un projet ethnomusicologie, on doit trouver quelques liens entre la musique elle-même et aussi la société, la communauté qui les musiciens restent et qui les musiciens aiment bien rester dans le futur. Donc il y a ce que j'ai trouvé, ça s'appelle la théorie de bonding plutôt que banding. Dans cette théorie-là, on a conclu que avec des musiciens chinois immigrés arrivés à des périodes différentes aux États-Unis, on a décidé de jouer cette musique et de insister à jouer les musiques là. C'est à cause d'une culture commune entre eux et c'est à cause de même si on n'a pas le même niveau social ou le même salaire. On joue quand même ensemble.
Mm-hmm, bien sûr. Vous pourriez préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas fluently English, bending et bonding.
Donc, la théorie de bonding, c'est plutôt culturel et la théorie de bending, c'est plutôt économique. C'est-à-dire, dans la théorie de bonding, on a des gens qui viennent de différentes périodes, différentes culture, différents niveaux de social et de économique, mais on joue parce que on s'entend bien. Mm-hmm. C'est la seule raison. Mais dans banding, on joue parce que on gagne de l'argent. Oui, ensemble.
Et donc là, on est professionnel dans bending.
Oui.
Et bonding, finalement, c'est le mot lien en français, si on le traduit. Et ouais. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez constaté, et pas du tout contesté d'ailleurs, qu'au Chinese Traditional Orchestra, la musique fonctionnait plutôt comme un lien social fort. Et c'est ça, cette histoire de théorie du bonding. C'est le lien social, en fait.
Oui, oui.
Qui dit lien, dit donc harmonie, et c'est un mot qui revient souvent dans votre travail sur cet orchestre.
Harmonie. Parce que plutôt c'est un concept connu par la Chine et les Chinois. Dans l'histoire de la Chine, le concept de harmonie vient de le concept de la famille, de le concept de on reste ensemble tout le temps et on est respectueux vers une entité qui est plus grande que l'individuel. Et donc, dans cet orchestre-là, On a des musiciens, peut-être 90 musiciens, et on est tous dans l'harmonie parce que on s'entend bien, on joue sans compensation et on joue ensemble.
Et c'est une harmonie sociale donc. Alors on ne joue pas du saxo de la même façon si on est né en Chine ou aux États-Unis, avez-vous constaté ça?
Le saxo, c'est un instrument vraiment versatile.
Universel?
Versatile. On peut jouer le saxo dans le style chinois ou dans le jazz qui est connu par peut-être tout le monde, ou dans le sens traditionnel, on peut jouer beaucoup de pièces traditionnelles aussi.
Et moi, ma question, c'était l'idée que quand on apprend un instrument en Chine ou quand on est un musicien chinois, est-ce qu'on joue vraiment ce même instrument de la même façon qu'un occidental? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire différemment? Est-ce qu'on n'a pas autre chose dans l'oreille?
Dans l'oreille?
Dans l'oreille.
Dans l'oreille. Je vois, ok. Je dirais que maintenant, j'ai pas trouvé une façon vraiment différente, mais peut-être dans le futur.
Voilà, il va falloir chercher. Alors, aux États-Unis, la société est plutôt individualiste et en Chine, elle est plutôt collective. Alors, moi, j'ai l'impression que faire de la musique ensemble pour les émigrés chinois, c'est une manière de retrouver cet esprit collectif.
Ça, c'est intéressant, oui, je suis d'accord, tout à fait. Je pense avec une culture aux États-Unis, ces groupes de diaspora, on dit, c'est des immigrés des différents pays qui viennent de ces pays différents et qui vivent ensemble. Il y a des communautés qui essayent de trouver des identités originales. Et ça, c'est la musique, c'est une belle façon de faire ça.
Alors, jouer de la musique chinoise permet aussi aux membres de l'orchestre d'être mieux intégrés dans la société américaine. Comment expliquez-vous ça?
Je pense que c'est pas intégré dans la société américaine. Je pense que c'est plutôt intégré dans la culture américaine. Comme j'ai dit avant, la société américaine s'est séparée dans les différentes communautés ethnicités. Puis on obtient des mentalités de se séparer et de se rester dans la même culture. Donc c'est une façon de intégrer dans la façon de vivre quotidiennement aux États-Unis.
S'intégrer aux États-Unis et aussi effacer les classes sociales, vous l'avez dit.
Oui.
Parce que jouer ensemble, ça efface aussi les classes sociales. Et donc, tous ces musiciens viennent finalement pour la convivialité, le plaisir d'être ensemble et de construire un projet commun, mais un projet commun qui rappelle leurs origines chinoises.
Oui, oui.
Et donc ça, c'est important de garder ce lien avec le souvenir, parce que beaucoup d'immigrés chinois sont peut-être nés aux États-Unis.
C'est ça, de trouver une racine de la culture.